Deux invités conviés pour un débat, une particularité, ils sont seuls pour le mener pendant 30 minutes. Petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Alors on commence par vous, qui êtes-vous ?
Alors, je m'appelle Catherine Vitold de Venden, je suis directrice de recherche au CNRS, au CERI, à Sciences Po, spécialiste des migrations internationales, et je travaille sur l'impact des migrations sur les relations internationales. Un sujet servi par une forte actualité aujourd'hui, avec l'effet des révolutions arabes sur les flux migratoires en Méditerranée.
Deuxième invité, même préambule, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Patrick Gonin, je suis géographe, je travaille à l'université de Poitiers et je suis membre du laboratoire Migrinter, un laboratoire spécialisé sur l'immigration internationale et qui existe depuis un peu plus de 25 ans.
Dernière précision, comme point de repère, vous avez vos montres et une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin.
L'homme éternel migrant. Effectivement, la migration, c'est l'histoire de l'humanité. Les hommes ont toujours bougé là où il y avait le plus d'opportunités. Et au cours des siècles, les hommes ont effectué toute une série de parcours migratoires de par le monde, se sont rencontrés, se sont combattus. Et en même temps, avec la limite que la Terre est une sphère, donc ils ont bougé dans cet espace contraint qui était celui de la Terre. Et aujourd'hui, la question de la rencontre est aussi un sujet tout aussi important que celui des flux migratoires.
Alors, cette proposition, ou plus exactement cette question, puisqu'il y a un point d'interrogation à cette question, je dirais premièrement les hommes et les femmes. Un migrant sur deux est une migrante, premier point. Deuxième point, éternel, c'est pas certain. Certes, la planète a été conquise, colonisée, par l'être humain, mais nous avons là des mobilités et pas des migrations. Pour être dans le registre de la migration, il nous faut une frontière, il faut traverser ces frontières, et c'est malgré tout une minorité de personnes qui traversent les frontières, 3% à l'échelle mondiale, 200 millions de migrants, donc nous avons 97% de sédentaires.
Oui, mais en même temps, il y a trois fois plus de migrants internes, 740 millions environ de migrants internes. Donc, 1 milliard de personnes à l'échelle de la planète sont en situation de migration et de mobilité interne. Et il y a une sorte de paradoxe avec le fait que d'un côté, on dit que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain, et qu'en même temps, la mobilité est très fortement contrainte, et notamment ceux qui sont migrants ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires, alors que l'on valorise la mobilité à l'échelle mondiale et le droit à la mobilité comme droit de l'homme du 21e siècle.
La mobilité a fabriqué le peuplement, sa répartition sur la Terre et, comme nous dit Jean Chaline, effectivement, une conférence faite en novembre 2006 à la Cité des Sciences, nous sommes tous Africains, une des deux thèses sur ce peuplement de la planète. Mais malgré tout, la migration au sens moderne du terme nous oblige à un certain nombre de règles, en tout cas pour pouvoir compter les migrants. Et il nous faut des États, des frontières, et le migrant est une personne qui change de domicile, traverse cette frontière. Et donc, d'une certaine manière, les migrations, alors j'ai envie de dire récentes, hein, 19e, fin 19e siècle, sont une migration d'une minorité de personnes, là, et nous avons des migrations de travail et de peuplement. On pourrait peut-être réfléchir à cette double utilité de la migration, pour le peuplement d'une part et pour le travail d'autre part.
Oui, avec cette différence que dans le passé, même jusqu'au milieu du 19e siècle, si ce n'est jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, pour la plupart des gens, il était très difficile de sortir de chez soi parce que les États maintenaient derrière leurs frontières leur population qu'ils considéraient comme une richesse pour le service militaire, pour l'agriculture, pour lever l'impôt. pour la démographie, qui était aussi une richesse presque stratégique en elle-même, alors qu'il était assez facile d'entrer quelque part, parce que les pays d'accueil n'avaient pas encore défini de limites. Ils voulaient au contraire se peupler, avoir de la main-d'œuvre, et donc il était facile d'entrer quelque part. Aujourd'hui, on est entré dans une situation complètement inverse, où il est devenu, depuis la chute du mur de Berlin, et depuis, disons, une délivrance plus généralisée des passeports dans presque tous les pays de départ, facile de sortir de chez soi, mais difficile d'entrer quelque part parce que les pays d'accueil se sont barricadés derrière des politiques de visa, des politiques sécuritaires. Et donc, la situation s'est inversée. Autre situation qui s'est aussi inversée, c'est que dans le passé, les pays de départ étaient des pays puissants sur la scène internationale, alors que les pays d'accueil étaient des pays assez faibles qui n'avaient pas tellement la possibilité de trier ceux que leur envoyaient les pays de départ. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les pays d'accueil sont des pays puissants sur la scène internationale et les pays de départ sont souvent assez faibles dans la négociation pour pouvoir négocier la nature des migrations qu'ils envoient vers ces pays d'accueil qui ont aujourd'hui quasiment le monopole de la définition des politiques migratoires.
Alors, les migrations internationales se sont complexifiées, c'est certain, mais même dans cette configuration-là, nous avons une particularité tout à fait importante, significative, qu'il ne faut pas oublier. Dans un débat actuel complexe sur les migrations, en termes politiques, nous avons une minorité de personnes qui migrent au sens de migration internationale. Et sur les 200 millions, nous avons un tiers de migration Sud-Sud, nous avons un autre tiers de migration et un petit tiers des pays du Sud en direction des pays du Nord, les pays riches. Et puis on oublie aussi un autre tiers des migrations de pays du Nord riches vers d'autres pays du Nord riches. Et donc les débats actuels, l'image que nous avons des migrations, malgré tout, cache quelque peu ces disparités, ces grands ensembles géostratégiques et géopolitiques. Ce qui est certain, c'est que tout être humain a le droit de quitter son pays. Il n'a pas forcément loisir de pouvoir arriver dans le pays qu'il souhaite. C'est bien le grand changement de nos jours.
Tout à fait, c'est ce qu'un de nos collègues appelle le pas suspendu de la cigogne, c'est-à-dire la possibilité de mettre son pied au-dessus de la frontière, mais sans la possibilité de le poser. Mais une des grandes nouveautés, si j'ose dire, depuis ces 20 dernières années, c'est que la plupart des pays qui étaient autrefois définis clairement pays de départ ou pays d'accueil, d'une part, ont beaucoup augmenté en nombre. On avait une trentaine de pays, il y a 30 ans, qui étaient soit des pays de départ, soit des pays d'accueil. Aujourd'hui, presque tous les pays du monde sont concernés de près ou de loin par la migration, soit par le départ, soit par l'accueil, soit par le transit. Mais plus encore, on a des pays qui sont aujourd'hui les deux ou les trois à la fois. Si on prend l'exemple du Maroc, du Mexique, de la Turquie, on a des pays qui sont restés des pays de départ, qui sont devenus des pays d'accueil et qui sont aussi entre les deux des pays de transit pour des migrations qui veulent aller plus loin. Même la France, on l'a découvert avec les gens de Sangatte, est devenue et redevenue un pays de transit, ce qu'elle était au 19e siècle pour les gens qui traversaient la France pour prendre un bateau pour les États-Unis ou l'Amérique latine. Donc aujourd'hui, le statut des pays est devenu plus flou, mais le statut aussi des migrants, c'est-à-dire que beaucoup de gens viennent pour l'essentiel pour travailler, mais ils peuvent venir par le regroupement familial ou en demandant l'asile, etc. Donc même les catégories sociologiques et juridiques du passé sont dépassées par la réalité et on a beaucoup de gens qui, sont des demandeurs d'asile mais en même temps cherchent du travail parce qu'ils quittent des pays pauvres et mal gouvernés et on n'est plus dans l'opposition des années 50 où le dissident soviétique était très différent de l'ouvrier à la chaîne des industries des pays européens. Donc ça, c'est une grande différence. Le brouillage des pays, des catégories de pays et des catégories de migrants fait partie aussi de cette mondialisation des migrations.
Oui, nous avons une accélération des migrations aujourd'hui, même si ce nombre reste encore faible. Certainement parce que nous sommes à cette troisième étape de la mondialisation. Alors, lorsque l'on regarde l'immigration internationale, on peut se dire une première étape de la mondialisation avec les grandes découvertes, avec la mise en place du système colonial. Alors effectivement, nous avons eu un déplacement massif, mais cette fois-ci, on était dans le cadre d'un commerce triangulaire avec l'esclavage. Nous avons cette deuxième étape importante de la fin 19e, début 20e, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où nous avons là 1 million de personnes par an qui quittent l'Europe, la vieille Europe, pour se diriger vers les pays neufs, ces pays d'Amérique. Et nous n'avons pas reconnu de migration aussi importante. Mais aujourd'hui, on a effectivement ce sentiment d'accélération, peut-être tout simplement parce que le nombre de pays de départ augmente, le nombre de pays d'arrivée augmente peu. Les trois quarts des migrants internationaux se retrouvent dans 28 pays. Et par ailleurs, nous avons aussi une fabrique un peu artificielle des migrants internationaux, en tout cas d'un point de vue statistique. Quand l'Union soviétique se désagrège, le nombre de migrants automatiquement augmente parce qu'il y a plus de frontières. Et donc, on a malgré tout des difficultés d'aborder les questions d'immigration internationale de façon sereine, posée, en regardant les faits tels qu'ils se produisent. Et on a peut-être trop tendance à pointer la dimension négative d'immigration et à oublier que c'est peut-être une chance pour notre planète.
C'est vrai. Alors, un autre aspect qui est également très caractéristique de ces 20-25 dernières années, c'est que l'Europe est devenue l'une des plus grandes destinations du monde, ce qui n'était pas le cas dans le passé, puisque les États-Unis, le Canada, l'Australie se sont peuplés de migrants, notamment européens. Et cette réalité de continent d'immigration malgré lui est une chose qui est très mal acceptée par une partie de l'opinion publique et explique en partie les politiques très sécuritaires qui sont menées par les pays européens sur leurs frontières externes. Et l'Europe a beaucoup de mal à reconnaître la dimension positive de l'immigration, alors qu'auparavant, les Européens sont partis pour les grandes découvertes, pour les missions, pour le commerce, pour le peuplement, pour la colonisation dans le monde entier. Et donc, prise de conscience de l'Europe continent d'immigration dans un contexte de déclin démographique, de dépendance à l'égard des besoins de main-d'œuvre qualifiés et non qualifiés, est une donnée nouvelle qui est apparue depuis la fin du XXe siècle.
Alors, on peut peut-être s'accorder sur le fait qu'il y a deux grands types de migration. Migration de peuplement. Certains pays y recourent encore et appellent des personnes pour travailler, mais aussi pour s'installer. Et puis, nous avons la deuxième catégorie, la migration de travail. Cette migration de travail, elle est plutôt récente. D'une certaine manière, ce sont les pays d'arrivée qui choisissent, décident les personnes qu'ils souhaitent en fonction de leurs besoins et les besoins vis-à-vis d'une activité économique. Par rapport à l'évolution de nos pays du Nord, ici l'Europe par exemple, en reprenant ce continent, nous avons bien évidemment une migration dont certains disent de remplacement nécessaire par rapport à l'évolution de la population. Notre population vieillit, la population active va diminuer et nous n'avons pas beaucoup de solutions en termes démographiques et en termes d'approche des dynamiques de population. Mais nous restons malgré tout sur une minorité de migrants dont les qualifications ont changé. Dans les années 50, les pays industrialisés avaient besoin d'une main-d'œuvre peu qualifiée, souvent des paysans sahéliens ou du Maghreb ou du nord de l'Afrique, pour travailler dans les usines. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qualifiées, d'où ce système de contrôle renforcé aux frontières pour faire le tri. Le terme est certainement mal approprié, mais pour faire le tri entre une migration nécessaire pour le pays d'accueil et une migration qui ne serait pas souhaitée.
Les flux migratoires désormais sous contrôle, tout à fait. Les pays européens, mais aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie et beaucoup d'autres régions du monde, le Japon, ont besoin à la fois de qualifiés et de peu qualifiés. Ils ont aussi besoin de très qualifiés. Ils ont pris conscience que s'ils fermaient complètement leurs frontières, il ne faut pas oublier qu'en Europe, l'immigration zéro a été un des thèmes clés de la politique migratoire depuis les années 90. Ils ont pris conscience que s'ils fermaient leurs frontières, ils se privaient de la concurrence mondiale pour la compétition sur les cerveaux, les très qualifiés. Donc ça, c'est acquis, si j'ose dire, dans les politiques européennes. En même temps, tous ces pays ont besoin aussi d'une immigration peu qualifiée, qui fait des travaux, ce qu'on appelle les 3D, les dirty, difficult, dangerous, des pays qui sont des métiers qui sont mal payés, qui sont exposés aux intempéries, mobiles dans l'année, etc., précaires. Et donc, la plupart, et ça c'est la grande différence sans doute par rapport aux années 50, c'est que dans les années 50, les OS, comme on disait, avaient un statut juridique, alors qu'aujourd'hui, pour les métiers les moins qualifiés, la plupart des pays d'accueil ont beaucoup de mal à faire accepter à leurs opinions publiques qu'ils aient un vrai statut, et donc ces métiers sont souvent tenus par des sans-papiers qui viennent alimenter une forme d'esclavage moderne dans toutes les économies occidentales.
Il est évident que nous avons une externalisation des contrôles. On ne contrôle plus à l'arrivée, on contrôle aussi au départ. On contrôle également dans les pays de transit. On a tout un dispositif, un armada qui s'est mis en place de contrôle qui, effectivement, explique très bien les tensions actuelles. Mais je ne connais pas, nous ne connaissons pas de frontières qui empêchaient les mobilités des personnes.
C'est clair.
D'accord ? Alors on peut remonter au mur d'Adrien, à la muraille de Chine, voire le mur de Berlin. Les frontières ne sont là que pour canaliser les personnes, et effectivement, sur ce point, on sera d'accord. Sauf que l'on crée des besoins, et en créant ces besoins, nous avons malgré tout une part de la population, une minorité, pas les plus pauvres, cette minorité qui va souhaiter, bien évidemment, se rendre dans un autre pays pour améliorer ses conditions de vie. Et puis, c'est cette étonnante situation actuelle de mise en politique des questions migratoires. Nous avons multiplication des ministères de l'immigration, et ça c'est récent. Alors, ministère des ressortissants de l'étranger pour les pays de départ, mais également des ministères s'occupant explicitement de la question migratoire dans les pays d'arrivée. Et là encore, nous avons un révélateur de ce paradoxe actuel d'une migration nécessaire, mais qui en même temps n'est pas crainte, mais présentée comme peut-être dangereuse, ce qui est politiquement certainement une erreur.
Tout à fait. Je pense que la dimension du contrôle se réfère à la notion de sécurité. Et depuis les années 90, on a mêlé la question migratoire, qui était avant une question de main-d'œuvre, à une question de politique intérieure et donc de sécurité. Et le mélange de l'idée du terrorisme international, de la migration, de la délinquance, de la situation des sans-papiers, fait qu'on est dans une sorte d'amalgame fortement exploité par les politiques publiques pour faire de l'immigration un danger, une menace, voire une exploitation du thème de l'invasion, de la conquête, et donc de quelque chose qu'il faut absolument réprimer en priorité. Alors qu'il y aurait toutes sortes de réflexions qui pourraient être menées sur des espaces de libre circulation, aussi bien à l'échelle bilatérale, à l'échelle régionale par exemple, qui font défaut cruellement. L'actualité aujourd'hui avec les révolutions arabes montre la carence des politiques méditerranéennes en matière des migrations entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, dont on voit aujourd'hui l'indigence, puisque en fait, ce qui marche le mieux, entre guillemets, c'est des politiques bilatérales, c'est-à-dire des politiques qui ont été marchandées entre les pays d'accueil et les pays de départ, d'homme à homme, donc avec éventuellement des hommes forts de régime autoritaire, et quand ils sont partis, ben on considère que la circulation des frontières dans ces pays est moins bien assurée, alors que ces politiques bilatérales ont été menées parce que les pays européens se méfiaient de l'efficacité d'un système soit régional, soit européen de contrôle des frontières.
Oui, justement, parlons de ces accords, hein, cette gestion concertée des flux migratoires. C'est malgré tout un tout petit peu plus complexe. Nous sommes à une période de la marchandisation des migrations internationales. Ça devient malheureusement une marchandise. Ça rentre dans les négociations internationales. Et les accords bilatéraux, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne sont pas un progrès. Il ne faut pas oublier que derrière l'émigration, il y a un enjeu financier. Et nous le savons. Et entre autres, l'envoi d'argent des migrants à leur famille. Et je dis bien à leur famille et pas à leur pays. Et on nous dit, ou plutôt alors la Banque mondiale, les organisations internationales font des évaluations, et ces sommes sont en augmentation. Une augmentation surprenante. 200 millions de migrants, 300 milliards de dollars par an d'envoi d'argent, partie légale, passant par les banques, 300 milliards. C'est considérable, considérable. Et ce n'est que la partie officielle, mesurée ou évaluée. Hein. Nous avons là quand même malgré tout des doutes sur la manière dont ces chiffres sont faits. Si on fait un ratio rapide, 300 milliards de dollars par an, 200 millions de migrants, globalement, un migrant envoie 1500 dollars par an, on va dire, allez, 150 dollars par mois à sa famille. La Banque mondiale a découvert en 2000 l'importance de cette somme. Et si nous regardons l'augmentation de ces remises et l'aide publique au développement, c'est l'ouverture d'un ciseau. Les remises augmentent, par contre, l'aide publique au développement stagne, voire diminue. Nous sommes rentrés dans l'ère de la négociation, de la discussion de pays à pays et donc de la marchandisation, de cette circulation de personnes qui partent pour elles et certainement pas pour leur pays ou certainement pas pour d'autres questions.
C'est vrai. Alors c'est vrai que le migrant aujourd'hui est un individu qui de plus en plus ne part pas pour se sacrifier pour sa famille, mais parce qu'il a un projet individuel qu'il veut poursuivre et parce qu'il refuse la fatalité d'être né dans un pays pauvre et éventuellement mal gouverné. En même temps, ce que l'on peut constater, c'est que les pays de départ ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de la migration dans la négociation internationale et on fait une sorte de diplomatie des migrations, non seulement à travers ces fameux accords bilatéraux qu'on a vus, on contrôle les frontières, vous nous faites une politique de développement, vous nous donnez des titres de séjour pour les plus qualifiés, etc. Et en même temps, eux, ils ne sont pas du tout disposés à stopper les flux migratoires, notamment ceux qui viennent de chez eux, parce que ça leur apporte, non pas nécessairement pour le pays, mais pour le mieux-être de la population, des éléments tout à fait positifs. Donc il y a une sorte de dissociation qui se fait dans certains pays qui vivent largement de la migration, entre la population qui va mieux, si on prend par exemple l'exemple des Philippines, un Philippin sur 10 vit à l'étranger, parce qu'elle vit des transferts de fonds et d'une meilleure éducation des enfants grâce à ces transferts qui sont envoyés aux familles, d'une meilleure santé, etc. Et puis le pays qui ne reçoit pas beaucoup de dividendes de cette migration parce qu'il y a un manque de confiance dans le pays de départ de la part des migrants, compte tenu de l'instabilité politique de ce pays. Et donc, en fait, il y a une sorte de spirale migratoire qui s'installe dans des régions de départ, créant parfois des inégalités de développement entre les régions où il y a de la migration puis les régions où il n'y en a pas. Et donc, une sorte de dépendance à l'égard de la migration accélérée par les transferts de fonds. Et dans ce cas-là, la migration permet plus de développement des personnes et le développement amène à un besoin de migration accru dans un certain nombre de régions du monde.
Nous sommes un peu à un tournant historique dans la manière de traiter les migrations. On a deux solutions, effectivement, et ce sont des choix politiques. Je dis souvent à mes étudiants, dites-moi la manière dont vous traitez vos migrants et je saurai qui vous êtes. Voilà. Alors on est là à un tournant essentiel. Soit le migrant est considéré comme une chance pour son pays de départ, mais c'est aussi une chance pour le pays d'arrivée. Ça crée des emplois, ça répond aux besoins, ça génère de l'activité et la circulation a toujours été nécessaire, indispensable pour générer du développement économique, humain. Malheureusement, j'ai presque envie de dire, nous sommes confrontés à un débat politique crispé sur du court terme. Alors que les questions que nous abordons, celles de la mobilité des personnes, du développement humain, nous devons le penser sur le long terme. L'histoire nous a souvent montré que lorsqu'il y a repli, il y a danger, et ces dangers sont des dangers sérieux, de confrontation majeure. Et dans les débats qui s'installent, que nous voyons s'installer entre une Europe forteresse, hein, le terme a souvent été employé, et on est d'accord avec ce terme, avec l'externalisation des frontières, avec ses contrôles répétés, nous avons aussi des incidences sur des libres circulations dans les pays du Sud. Je vais prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Ces pays de l'Afrique de l'Ouest ont inventé en 74-75, au milieu des années 70, la libre circulation à l'intérieur de leur espace économique qu'ils créent. Cette libre circulation a certainement permis à ce que cette partie de l'Afrique ne s'effondre pas. Ne s'effondre pas et l'a maintenue malgré tout en situation de survie et peut-être aujourd'hui en situation de début de croissance. Et les décisions européennes sont en train de freiner les libres circulations qui existaient au sein de ces pays. Nous avons là, dans la confrontation de deux blocs, un réel danger où les décisions européennes sont en train de freiner les mobilités, source de progrès et de développement dans cette partie du monde.
C'est vrai, et il y a aussi une perception de l'enjeu que représenterait une plus grande circulation des hommes à l'échelle mondiale. D'une part, sur le terrain des droits de l'homme, on dit que le droit de migrer pourrait être un droit de l'homme pour le 21e siècle, que dans le monde entier, les gens aspirent à bouger, pas nécessairement à s'installer définitivement dans un autre pays, mais à bouger. En même temps, il y a une crispation sur la fermeture des frontières, qui se traduit d'ailleurs par la multiplication des sans-papiers. Comme les gens, de toute façon, continuent à vouloir traverser les frontières et réussissent parfois, malgré les moyens qui sont alloués financièrement au contrôle des frontières, on a à peu près 11 millions de sans-papiers aux États-Unis, environ 5 millions, si on peut les compter, dans les pays de l'Union européenne. Donc on a une sorte de paradoxe entre, d'un côté, le fait de dire le monde moderne est un monde qui bouge, et puis on dit, pour certains, c'est magnifique, pour les cadres, les touristes, les gens qui passent leur vieillesse au soleil, etc., c'est merveilleux. Et puis pour d'autres, et notamment pour les plus pauvres, les deux tiers de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement. Un autre aspect également qui est assez fort aujourd'hui, c'est que finalement, c'est par les marges que le sujet commence à devenir émergent, c'est-à-dire la question des sans-papiers, tous les effets pervers des politiques de contrôle des frontières, le coût du contrôle aussi par rapport à son efficacité qui est considérable, le budget Frontex qui est la mise en commun des polices européennes pour le contrôle des frontières externes de l'Europe a été porté à 88 millions d'euros, alors qu'aujourd'hui son efficacité consiste essentiellement à repêcher les gens qui ont fait naufrage en Méditerranée, et encore. Donc, en fait, il y a une certaine cacophonie entre ceux qui sont pour la mobilité, disons, mettent ensemble des intérêts très contradictoires. D'un côté, on a les employeurs, on a les pays de départ, on a les associations de droits de l'homme, on a les églises, et puis de l'autre côté, contre la mobilité, on a les souverainismes étatiques, on a également ceux qui défendent d'une façon très dure l'État-providence en disant que les migrants n'en font pas partie puisqu'ils n'ont pas cotisé dans le système qui a été prévu en matière de santé, par exemple. On a toute une série de mouvements, disons plutôt d'extrême droite, qui considèrent que c'est une atteinte aux identités nationales des États d'accueil. Et donc, on a une coalition d'intérêts très hétéroclites qui fait que l'efficacité de la revendication du droit de migrer et n'a rien à voir avec l'internationale ouvrière de la fin du XIXe siècle parce que, en fait, ces revendications sont extrêmement mal soutenues à l'échelle mondiale.
C'est quand même un manque de courage politique. C'est d'abord un manque de courage politique. Pour la simple raison, c'est que les arguments qui sont donnés sont des arguments qui ne tiennent pas à la route lorsqu'on les confronte à la réalité. Ils ne partent pas parce qu'ils sont pauvres, nous le savons. Ce ne sont pas les plus pauvres qui partent. Et si c'était les plus pauvres qui partaient, qui quittaient leur pays pour rejoindre un Eldorado qui n'existe plus, et ils le savent, si c'était les plus pauvres, on aurait beaucoup plus de migrants que nous avons aujourd'hui. Donc nous sommes dans une situation, à mon avis, où globalement nous avons des visions à court terme, des besoins de questions internes, de politique interne, interne à la France, interne au pays d'arrivée, et puis une réalité migratoire qui est somme toute simple, et qui pourrait bien évidemment permettre ce développement humain dont on a parlé, et permettre une véritable amélioration des conditions de vie partagées par la libre circulation des personnes. Je pense que là-dessus, on sera d'accord. Ce qui ne veut pas dire l'ouverture des frontières. Là-dessus aussi, on sera d'accord. La frontière, c'est un commutateur, c'est un filtre. Et elle a toujours fonctionné comme filtre. Et je ne suis pas aussi optimiste sur les rapports des organisations internationales qui sortent aujourd'hui. Alors, 2006, effectivement, le secrétaire général des Nations Unies qui enfin fait le lien, découvre l'intérêt de la relation entre migration et développement, celui qui vient de sortir, là, de la Banque mondiale, où enfin, subitement, ça y est, la migration est une chance peut-être aussi pour les pays de départ et les pays d'arrivée. Mais dans cette migration, nous avons deux catégories. Nous avons des personnes qui, et une très grande majorité, qui sont assignées à résidence, qui ne peuvent pas quitter leur pays, qui ne quitteront pas leur pays. Et puis une autre catégorie, une minorité, qui, elle, aurait le droit à la mobilité, à la circulation. Et c'est ce monde-là qui se fabrique sous nos yeux, et ce monde qui se fabrique sous nos yeux est de l'ordre de la décision politique. Et dans les accords bilatéraux qui se négocient, on voit bien que, malgré tout, le pays qui va dicter ses règles ou ses propositions sont les pays riches et que les perdants sont plutôt les pays moins riches, pour ne pas dire pauvres.
Alors le résultat, en fait, c'est un grand gâchis. On est dans une sorte de Far West en termes de gestion des migrations par rapport à d'autres grands enjeux mondiaux qui sont gérés par l'OMC ou par quelque autre structure internationale. Les politiques publiques ont souvent 30 ans de retard par rapport à ce qui se passe en réalité en termes de migration. Il faudra bien un jour réfléchir à la façon de combler cet écart, parce que le grand enjeu, c'est pas tellement de contrôler les flux, c'est de vivre ensemble. Et là aussi, il y a un déficit de réflexion collective à l'échelle mondiale, régionale, nationale, locale, considérable. Si on mettait tous les moyens sur le vivre ensemble par rapport à ceux que l'on alloue au contrôle des frontières, sans doute que beaucoup de choses se passeraient beaucoup mieux.
C'est déjà fini, merci. À très bientôt au même endroit avec de nouveaux invités pour débattre et s'écouter.